La question du vocabulaire français des TIC est aussi passionnante que passionnée. Faut-il remplacer tous les mots de l'informatique, pardon, de l'IT, par des mots français? La question est épineuse et polémique. Mais fort heureusement, l'État veille et a produit pour nous ce vocabulaire des techniques de l'information et de la communication, TIC. Un acronyme en trois lettres, Three Letter Acronym for les linguistes, aujourd'hui disparu. Nous le regrettons amèrement, mais encore valable sous les ors de la République. Je vous offre ce petit divertissement linguistique qui pose néanmoins des interrogations fondamentales sur les usages d'une langue qui n'en finit pas, et c'est heureux, car cela montre qu'elle est vivante, de se transformer. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, vous écoutez bien les podcasts de Visionary Marketing. Nous vous en remercions. Le sujet du jour, le vocabulaire de l'informatique et des TIC. Parlons français. Dans ces bagarres pseudo-linguistiques menées par de non moins pseudo-linguistes, dignes d'un célèbre village d'Armorik, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Le lecteur bienveillant et non polémique, il paraît que ces deux mots sont à la mode, qui en son fort intérieur répugne aux salades langagières, language salad en anglais pour ceux qui se demanderaient d'où vient cette expression bizarre, et préférera le courriel à l'email, risquera fort de se faire taxer de ringard pour le coup. Voici un mot bien français. D'un autre côté, celui ou celle toujours aussi bienveillant qui fera remarquer qu'il vaut mieux utiliser les mots de tout le monde, y compris les barbarismes les plus extrêmes et les plus laids, se fera quant à lui montrer du doigt comme traître à la nation. Et vous remarquerez au passage, dans la version écrite, l'usage ô combien osé de l'accent circonflexe. Et encore, je vous épargne l'usage de l'écriture inclusive, qui semble soulever les passions. J'avoue avec honte que je me suis parfois emparé de celle-ci, pensant bien faire. Avant de m'apercevoir que les noms d'oiseaux volaient bien bas à l'encontre de ces suppôts de Satan qui voulaient dénaturer un sacro-saint idiome, pourtant, dont la grammaire et l'orthographe ont sans cesse évolué. Citons Wikipédia, l'encyclopédie collaborative et gratuite, dont je vous rappelle qu'elle est gérée par une fondation sans but lucratif et qu'elle a besoin d'argent, n'oubliez pas de lui en donner tous les ans, au risque de la voir disparaître, ce qui serait bien dommage, car sa qualité est, contrairement au dire du café du commerce, largement meilleure que la plupart des encyclopédies. Cela a déjà été prouvé d'ailleurs en comparant l'Encyclopédia Brittonica et Wikipédia, donc données. Revenons donc à Wikipédia, contrairement, c'est ce que nous dit l'encyclopédie gratuite, contrairement à certaines idées reçues, l'histoire du français et de son orthographe comporte de nombreuses réformes. De tout temps, l'orthographe du français a subi de nombreuses rectifications, mais l'habitude littéraire d'adapter les ouvrages dans l'orthographe officielle du moment nous donne une impression de continuité que la langue française écrite n'a en fait jamais eue. Nous avons vécu avec mon ami Hervé Cabla à de nombreuses reprises ces luttes fratricides avec notre série sur le digital. Aïe! Publié aux éditions Kawa. Kawa, ça ne sonne pas français non plus d'ailleurs. Et notons pour notre défense que nous parlons six langues à nous deux. Toutes nos tentatives d'explication et de pacification ont été vaines. Les bagarres ont fait rage. Je ne doute pas que j'aurai encore des remarques de ce genre, même si, avec ce titre, nous ne cherchions pas à nous prendre au sérieux, car, pire que les barbarismes, c'est surtout la prétention et le manque d'humour qui sont nocifs. Et Dieu sait que ces derniers sont fréquemment rencontrés ces temps-ci. Toujours est-il que voici comment nous nous justifions dans notre dernier ouvrage, Le Digital expliqué à mon boss. Là encore, vous remarquerez, lecteur avisé, l'usage de l'imparfait avec les deux i, qui implique une prononciation spéciale et particulièrement difficultueuse, et vous pointerez du doigt ces horribles dictionnaires en ligne qui ignorent le dernier épithète pourtant superlatif. Revenons donc à notre notice du digital expliqué à mon boss, ou plutôt, excusez-nous, du numérique expliqué à notre chef bien-aimé. Je cite « Le digital, les doigts sur le clavier. Doit-on dire digital ou numérique ? Puisque nous en sommes aux préliminaires, revenons immédiatement sur un sujet qui ne manquera pas encore de faire couler de l'encre, même virtuel, dans les médias sociaux et les zones de commentaires de nos blogs. Faut-il dire numérique ou digital ? Nous avons, dans l'ouvrage précédent, tenté une timide percée pour essayer de justifier ce qui est probablement un barbarisme, certes tiré du latin, mais néanmoins un barbarisme. Nous avons bataillé en ligne à de nombreuses reprises contre les zélotes du français parfait, à une époque d'orthographe nouvelle où nous nous entraînons sans accent circonflexe à faire disparaître sans accent circonflexe les coups sans accent circonflexe, mais où le jeûne avec un accent circonflexe ne cesse de croître avec un accent circonflexe sur un marché mûr avec un accent circonflexe. En fin de compte, la situation, fort complexe au départ, est bien confuse à l'arrivée. Mais dans le domaine du « digital », entre guillemets, nous y venons, la situation est bien pire car nous y faisons entrer le loup dans la bergerie. L'ennemi héréditaire, la perfide Albion, pour les nostalgiques, à force de barbarisme et d'emprunt linguistique. Hormis cela, le monde de l'informatique, que plus personne n'appelle ainsi depuis maintenant au moins 10 ans, s'ingénue à rendre la vie difficile à nos concitoyens désireux de comprendre quelque chose aux techniques, et non technologie, explique à juste titre Alain Lefebvre, de l'information et de la communication, ou TIC, vocable tombé en désuétude, mais bien plus poétique et doux à nos oreilles que l'horrible IT. Il est vrai que les informaticiens exagèrent, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Moi-même, fils d'informaticien, j'ai toute ma vie été bercé des traitements par batch, ou batches d'ailleurs on devrait dire, et du real-time, des hard drives, des RAM, random access memory, que ces sauvages ne pouvaient-ils parler le langage de Molière ? Le traitement par l'eau n'était pas mal non plus. Le temps réel, les disques durs et la mémoire vive se défendaient également. Mais heureusement, les services de l'État veillent au grain. La première fois que j'ai entendu ces montées au créneau pour la défense de la langue française, elle doit donc être en danger, mais le danger ne serait-il pas un danger de l'intérieur ? C'était en 92. J'étais à Londres, à l'époque, et je parcourais l'Europe. Les premiers débats qui menèrent à la fameuse loi de M. Toubon, immédiatement surnommée « All Good » par les plus facétieux, faisait des ravages dans l'Hexagone. Penaud, je baissais la tête dans les rues de Milan, de peur de me reprendre un scud. Notre image à l'étranger n'était déjà pas très bonne, et j'avais quelques craintes. Heureusement, celle-ci était totalement injustifiée. Le monde s'en fichait pas mal. Les Français de France aussi, sans doute. Finalement, le français n'était peut-être pas menacé, ou en tout cas, pas par des gens qui n'en avaient rien à faire. Revenons sur la loi Toubon et remercions à nouveau Wikipédia pour son savoir encyclopédique, enfin surtout les lettrés qu'il met à jour. La loi numéro 94-665 du 4 août 1994, il a donc fallu 2 ans pour la faire, relative à l'emploi de la langue française, plus connue sous le nom de loi Toubon, du nom de Jacques Toubon, le ministre de la Culture de l'époque, est une loi française destiné à protéger le patrimoine linguistique français. Elle vise 3 objectifs principaux, l'enrichissement de la langue, l'obligation d'utiliser la langue française, la défense du français en tant que langue de la République, article 2 de la Constitution de 1958, on ne sait jamais des fois qu'on la remplace par autre chose. Elle vise alors à assurer la primauté de l'usage de termes francophones traditionnels face aux anglicismes. Ça y est, l'ennemi est nommé. On remarquera aussi que le texte encourage le multilinguisme, mais fustige le bilinguisme. Après tout, on ne sait jamais. Des fois qu'un breton se met à parler la langue qu'on lui a arrachée, il faut bien se protéger des fâcheux. On remarquera enfin que des sociétés ont été sévèrement punies pour avoir fait circuler des documents en anglais. Heureusement qu'ils n'étaient pas en allemand ou en espagnol. De toute façon, personne ne les aurait compris. On a eu chaud. Il n'est pas indiqué le nombre de celles qui, au contraire, ont échappé à la punition tout en enfreignant gaillardement la loi, à commencer par une grande société nationale que je connais bien, pourtant émanation du service public. Grâce à Dieu, le Premier ministre et ses services veillent et nous ont fourni un vocabulaire des techniques de l'information et de la communication, TIC, dont j'ignorais jusqu'ici l'existence et que j'ai découvert en fouillant dans ma bibliothèque à la faveur d'un déménagement. J'ai même trouvé à la suite de mes lectures un site web complet qui permet de tester sa capacité à parler le sabir informatique francisé. France Terme, c'est son nom, est un site qui vous permet de rentrer un mot anglais. Alors j'ai fait le test avec le mot ransomware, particulièrement à la mode. ce ransomware devient, grâce à ce site, logiciel rançonneur, je cite, au mépris d'ailleurs de la pratique poétique et réussie du rançongiciel. En fait, vous l'avez compris, je n'ai rien contre les mots francisés, bien au contraire. L'excellent réseautage inventé par nos amis québécois en lieu et place de l'horrible networking, par exemple, fait partie de mon vocabulaire courant. Mais après tout, la punition est auto-infligée. Si tant de marketeurs se complaisent à jargonner dans un pseudo-anglais que ni les Français normaux, ni les Anglais d'ailleurs, ne comprennent, ce n'est sans doute pas la faute de George Bush. Au passage, le bushisme sur le mot « entrepreneur » qui n'existerait pas en français est une fausse nouvelle, alias « fake news ». Oups, pardon. Mais au-delà de la francisation, c'est la bureaucratisation qui mérite toute notre attention, et ce mot-là est bien français, qu'on se rassure. Car l'enrichissement de la langue française est une usine à gaz bien rodée avec un processus itératif qui passe par un grand nombre d'experts et de savants qui nous concoctent une novlangue, Newspeak en anglais pour les nostalgiques de l'avant-loi tout bon, parfaitement cachère si je puis dire. Ça fera plaisir à mon ami Hervé. Voici venir à la fin de ce divertissement. Après tout, point trop n'en faut. Comme je vous le disais au début de ce billet, dans ce débat sans fin, il n'y a ni gagnant ni perdant. L'usage est ce qui fait d'une langue ce qu'elle est. Mais l'histoire aussi, à tout le moins. Si les Anglais étaient aussi intelligents que les Français, et s'ils l'étaient, cela se saurait, il y a longtemps par exemple qu'ils auraient banni ce symbole de l'impérialisme normand du XIe siècle, « Dieu est mon droit », la devise de la Grande-Bretagne. Ou encore celui « On y soit qui mal y pense », pourtant photographié au château de Windsor, c'est la devise de l'ordre de la Jarretière, hein, et avec ce mot en français, puisque l'Angleterre a été dirigée par des Français pendant assez longtemps. Un peu comme si, au-dessus de l'Élysée, on avait « Shame on him who thinks evil of it », ce qui ne serait d'ailleurs probablement pas déplacé dans les gouvernements et notables anglais, qui d'ailleurs étaient pour la plupart français, au moins jusqu'à ce que la peste vienne les décimer à partir de 1348, était chez eux ici, ou du moins en de nombreux endroits de la Normandie, de l'Anjou, et d'ailleurs. Plus croustillant, à l'aune de cette loi aussi exotique qu'inapplicable, sont les cours et les programmes scolaires dans les écoles de l'enseignement supérieur dispensés en anglais, y compris dans la plus prestigieuse des universités de gestion du royaume où j'ai personnellement exercé. Je ne pourrais dissimuler ma jubilation à avoir contribué à enseigner dans la langue scélérate au mépris de cette règle pourtant si stricte. Une sorte de revanche de mes ancêtres à qui on a si intelligemment pourtant interdit de cracher par terre et de parler leur langue. Mais aux Gannett et Crézer morts, écrivait le poète qui s'est battu pour un pays dont il ne parlait la langue. Nous avons bien besoin d'un peu de poésie dans ce monde de brutes. Je vous souhaite d'excellentes vacances avec le dictionnaire des techniques de l'information et la communication dans lequel vous trouverez, en oubliant mes remarques facétieuses, quelques inspirations pour parler le français des TIC correctement. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.